À voix nue, Martin Penney s'entretient avec Zizi Jeanmaire. Aujourd'hui, dernier épisode, la chanson. Sans avoir appris à chanter, Zizi Jeanmaire est devenue chanteuse par la force des choses. Et pour le plus grand plaisir des amateurs de musical, qui ont adopté sa voix de parigote où se mêlent des accents chic et canaille. L'initiative en revient à Roland Petit, qui a innové en 1950 en introduisant des chansons dans son ballet La Croqueuse de Diamants. L'expérience d'une comédie musicale à Broadway en 1954 et de plusieurs films comportant des chansons ont assez naturellement conduit Zizi Jeanmaire vers le musical. Au fil des spectacles, un répertoire s'est constitué, avec des créations de chansons signées par les auteurs les plus prometteurs de son temps, au point que sa carrière, faite de diversité, a trouvé une magnifique conclusion en l'an 2000 avec un récital. Zizi Jeanmaire, vous êtes un personnage étonnant.
Pourquoi ?
Vous êtes une danseuse qui chante ou une chanteuse qui danse ?
Oui, enfin bon, oui. Je fais pas les deux en même temps, mais non. Bon, voilà.
Mais bon, d'une façon générale et dans l'esprit du public, vous êtes polytalenteuse. Alors, en tant que chanteuse, on a l'impression que vous n'avez pas voulu vous offrir des rengaines populaires qui vous auraient assuré des succès de disques.
C'est un peu vrai.
Mais, moi, l'avantage que j'y vois, c'est que vous avez choisi des chansons avec de l'esprit. Vous avez préféré peut-être les faiseurs de marques aux faiseurs de tubes. Mais ça n'empêche pas les contrastes.
Non.
Puisqu'on peut dire quand même qu'entre Mon truc en plume ou Les Bleus de Serge Gainsbourg, vous faites vraiment le grand écart.
Le grand écart. Mais Les Bleus, c'est une chanson que j'adore parce que le texte est fabuleux. C'est au deuxième degré. Ça parle d'une femme qui aime son homme tellement que de toute façon il la bat, ça fait rien. C'est dans la tradition des chansons réalistes. Mmh. Et voilà, bon. Mais c'est un texte superbe. Lorsque sur moi il pleut des coups de poing ou de tacan en bambou, c'est joli. Que le rimmel coule le long de mes joues. Que je m'évanouis, que je suis à bout. Je me dis que les bleus sont les bijoux les plus précieux et les plus fous. Et que si un soir on est sans le sou, je pourrais toujours les mettre au clou. C'est pas mal, ça.
Donc c'est signé Serge Gainsbourg.
Ça, c'est signé Serge Gainsbourg. Et puis j'ai demandé à Aragon. Nous dormirons ensemble.
Alors là, c'est Jean Ferrat qui a fait la musique.
Oui. Mais les paroles, moi, ça a une grande importance pour ce genre de chanson, quand même.
Ah ben, bien sûr. Mais quand vous dites « j'ai demandé à Aragon », ça m'intéresserait que vous m'expliquiez un peu plus, quand même.
Ben, je pense que... Ah oui, oui. Je pense que Roland a demandé l'adresse. Enfin, je ne sais plus. Il s'est arrangé pour rencontrer Aragon. Et il était encore avec Elsa. Et nous avons été les voir dans leur appartement. C'était très, très sympa, très agréable parce qu'elle était charmante. C'était une femme de poigne, mais enfin. Et puis là, simplement, les a connus comme ça. Et plus tard, elle n'était plus de ce monde. D'ailleurs, quand il m'a fait « Nous dormirons ensemble », enfin, c'était un poème qu'il avait écrit et que Ferrat a mis en musique par la suite.
Ce serait bien qu'on parle un peu de vos auteurs, puisqu'il s'agit avant tout d'auteurs de vraiment d'auteurs, de chansons de qualité, on peut dire.
Donc, oui, chansons à texte. Oui.
Et vous les avez choisis à dessein.
Oui, parce que j'aime bien les beaux textes.
Un des premiers qui a écrit pour vous, c'est
Béard.
Voilà, Guy Béard.
Guy Béard fait des très beaux textes. Alors lui, je l'ai connu par Canetti. Parce qu'à l'époque, il n'était pas connu du tout, il n'avait pas encore, on n'avait pas sorti de chanson. Et puis l'été, je ne sais plus ce qu'il faisait, ça, son métier.
Alors je crois qu'il était ingénieur.
Ingénieur, oui, je ne sais pas.
Enfin, mais donc il chantait déjà aux Trois Baudets ?
Alors il chantait aux Trois Baudets, mais un jour, Canetti qui s'occupait de moi, puisque j'étais en contrat avec Philips, puisque Boris Vian s'occupait de moi chez Philips... que j'avais connu Boris Vian, j'avais à peu près 17 ans, qu'il a été un des premiers à me dire « Toi, tu chanteras un jour », ce qui est très curieux. et qui m'avait fait connaître aussi, avec qui il a fait beaucoup de chansons, Salvador, qui avait écrit, entre autres, à l'époque, Suisse Nob. Mais comme moi, je n'avais pas encore fait de la croqueuse ni rien du tout, il m'avait dit, tu devrais chanter ça, bah, pourquoi tu ne chantes pas ? Boris, à l'époque. Et pourtant, il était à l'opéra, enfin, je l'ai connu quand il venait dans les coulisses à l'opéra, parce que Boris, il allait partout. Alors, les coulisses, il aimait les danseuses d'abord, et puis en plus de ça, il s'est marié avec une danseuse, hein, d'ailleurs.
Laquelle ?
Ursula Kubler, qui était dans la compagnie de Roland Petit. Et puis, Boris était devenu un grand ami à moi. On allait dîner ensemble, nous allions dîner. Enfin, je l'ai bien connu. Il m'a fait beaucoup la cour, beaucoup. Mais, bon, mais voilà. Et puis, Boris m'avait écrit des chansons et puis je ne les ai pas chantées.
À l'époque ?
À l'époque. Je me suis rattrapée quand j'ai fait l'Opéra Bastille. Mais j'aurais bien aimé les créer, celles-là.
Finalement, quand même. Vous avez laissé Magali Noël et d'autres les faire.
Oui, malheureusement. Elle chantait bien Magali Noël. Elle était très très bien Magali Noël, attendez. Alors bon, ça va, c'est comme ça, ça va très bien.
Bon, vous avez raté Boris Vian et ses premières chansons, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas encore dans le coup, on va dire.
Non, j'étais pas dans le coup.
Mais alors, lorsque vous avez commencé à faire du musical, à proprement parler, et du tour de chant à l'Alhambra en 57, là, vous avez fait confiance à un jeune auteur qui chantait déjà lui-même ses chansons, mais n'avait pas encore enregistré.
Béard.
Donc, Guy Béard. Et ça a quand même été tout de suite important.
Ah bah oui, parce qu'il m'a fait des chansons qui sont... Par exemple, moi, je trouve qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. C'est une belle idée. C'est un bon titre. C'est très bien. Il était arrivé un jour dans ma loge à l'Alhambra. Il m'a dit, j'ai trouvé une chose épatante. Je suis sûre que tu vas aimer. Il a commencé qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé, qu'on est bien dans ses bras-là. Et puis j'ai aussi fait une comédie musicale qui s'appelait Patron, dont les paroles étaient de Marcel Aimé, que j'ai bien connu aussi, Marcel.
Et là, la musique était de Guy Béard ?
Guy Béard.
À nouveau ? Il en reste une chanson connue, ça, de Patron ?
Il reste La Chabraque, en tous les cas. Je ne sais pas si c'est connu, personne ne la chante, mais enfin, c'est dommage. Et c'est une très belle chanson, La Chabraque.
Alors, oui. Après Guy Béard, vous êtes adressé, si on peut dire, à un autre auteur-compositeur important, que vous avez aussi aidé à éclore, même s'il avait déjà enregistré, mais bon, il n'était pas encore très connu, c'est Jean Ferrat.
Jean Ferrat,
en 61, oui. C'était encore à l'Alhambra.
C'était à l'Alhambra, alors ça c'est Roland qui a demandé à Jean Ferrat, parce que c'était toujours Roland qui allait de l'avant pour demander à Jean Ferrat, il a demandé de me faire des chansons. Et Jean Ferrat, à ce moment-là, a dit oui, mais il avait une, je ne sais plus le nom de sa femme, qui chantait d'ailleurs fort bien.
Christine Sèvres.
Christine Sèvres, elle chantait très bien, cette femme.
Ça, oui.
Et vraiment bien. Et évidemment, pour avoir des chansons de son mari, ce n'était pas tellement facile. Enfin, toujours est-il qu'à l'époque, Roland lui a proposé de paraître dans la première partie en vedette américaine. Alors comme ça, j'ai eu quelques chansons. Il m'a fait l'amour. Et qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Je me souviens plus.
À cette époque-là, il y en a eu deux, je crois. C'est et l'amour et mon bonhomme.
Et mon bonhomme, voilà. Bon, ben, j'ai eu... Qui après? Qui est venu? J'en ai tellement fait, je ne sais plus.
Bah, faudrait qu'on parle de Bernard Dimet. Parce que
hormis
mon truc en plume, il y a eu d'autres choses importantes.
Très importantes. D'ailleurs, c'est bizarre parce que je trouve que Dimet n'était pas vraiment... On ne connaissait pas vraiment Dimet. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'était pas très...
Bah, il n'était pas très populaire.
Très populaire, non.
Bah, déjà, il vivait quand même de façon très particulière. Il était un peu marginal, à Montmartre.
Oui, je sais, mais bon... Et puis, il écrivait comme ça sur un bout de papier, ça lui venait. Je me rappelle qu'il m'a écrit une chanson d'amour comme ça sur un papier, dans un bistrot. Comment c'était déjà?
Ah bah, je peux vous dire les titres, ça va peut-être vous rafraîchir la mémoire. Donc, il y avait La Cervelle, Les Petits Hôtels, oui. Il nous faut des chansons et Le Nougat.
Oui, il m'a fait trois ou quatre chansons, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que je changeais. À chaque fois que je faisais un tour de chant aussi, il faut dire que à chaque fois, j'allais chercher de nouveaux auteurs et je n'avais pas vraiment un suivi, comme on fait toujours, rechanter les mêmes chansons comme ils font tous, quoi.
Vous avez gardé quelques standards, mais pas beaucoup.
Oui, mais pas beaucoup.
C'est vrai. Oui, mais bon, c'est à votre honneur aussi d'avoir cherché à découvrir des nouveaux talents.
Ben, c'était une façon de voir les choses. Je me disais, bon, ben, c'est bien de rajouter, de changer, etc. Quoi. C'était la façon de faire. Mais j'en ai tellement chanté, attendez, j'en ai chanté combien des chansons?
En tout cas, les années passent un petit peu, et lorsque vous avez fait votre tour de chant à l'Olympia en 68, là je découvre une chanson de Barbara.
Oui, parce que Barbara était devenue plus ou moins une amie, parce que Barbara, à cette époque-là, était malade, mais c'est pas quand elle était très malade, mais... Elle n'était pas bien. Je l'avais rencontrée, elle était venue voir un récital. Et puis, elle m'avait dit, je sais plus comment ça s'est fait. Et je lui ai proposé de venir travailler là où j'allais travailler. Je faisais de la baratère. La fameuse baratère de Kniazev. Alors, je faisais de la baratère. Je lui ai dit, si vous venez là, à cette époque-là, c'était quelqu'un d'autre qui la faisait faire, Jacqueline Finert. Si vous venez, ça va vous faire un bien fou et personne ne fera attention, on vous laissera tranquille, etc. Elle était venue. Et c'est vrai que ça l'avait beaucoup aidée. Et puis, on est devenus plus ou moins amis, un peu. Et quand j'ai fait l'Olympia, je lui ai demandé des chansons. Elle m'avait fait La Petite Bête qui monte, je ne me souviens plus du tout de cette chanson. Et puis, elle m'avait fait Ce que j'ai dans la tête. Voilà. Elle m'avait dit, j'aime bien ton phrasé. Et ça, c'était un compliment. Mais je l'aimais bien. C'était quelqu'un de bien. Puis, elle a fait des beaux textes, Barbara.
Et enfin, toujours de cette Olympia 68, une chanson de Serge Lama que vous avez gardée. Alors là, ça fait partie des choses que vous avez reprises par la suite, D'aventure en aventure.
Ah ben ça, moi, j'aime beaucoup D'aventure en aventure. C'était à l'époque où il était... Il avait eu un accident de voiture.
Terrible, ouais.
Et il ne pouvait pas chanter. Il était pas bien du tout. Et puis Roland lui a demandé, a demandé à le rencontrer. Et à ce moment-là, il m'a donné D'aventure en aventure. Donc j'ai créé D'aventure en aventure. Et ça avait du succès, ça. C'est une belle chanson et populaire. Et c'est une chanson qui peut arriver à tout le monde, voilà. Enfin, c'est plus facile que les poèmes, c'est ça que je veux dire.
Et lorsqu'on parle de Frédéric Botton,
oui, Frédéric Botton,
qui vous a écrit des chansons aussi.
Oui. J'aimais bien Frédéric. C'était quelqu'un de très charmant et qui aussi écrivait un peu sur le bord. Il se donnait pas un mal de fou de Mais ça venait comme ça tout seul. Alors j'ai créé Le Caviar, que je trouvais très bien.
Mais comment ça se passait? On vous apportait des chansons?
Oh, la plupart du temps, fallait aller les chercher, hein.
Mais où ça? Chez les éditeurs de musique? Ou c'était les... Où vous alliez voir les auteurs?
On allait voir les auteurs. Parce qu'à l'époque, quand Boris n'a plus été de ce monde et que Canetti s'est occupé de moi, après, je ne sais plus, il y a eu une cassure là qui s'est faite. Et finalement... J'ai quitté la maison de Michel Philips. Et ça, c'est pas bon, hein. Il faut rester dans une maison de disques. Il faut faire comme Johnny.
Oui, c'est vrai, quand on regarde votre discographie, on constate qu'il y a pas mal de labels qui se sont succédés. Enfin, la période Philips a été assez longue.
Hein. Oui. Mais c'était la meilleure, parce que j'étais justement avec une maison forte. Et
donc
tout.
En gros, ça couvre les années 50 et le tout début des années 60. Mm-hmm. Et puis alors après, effectivement, après, vous êtes un petit peu dispersé.
Oui. C'est pas bon, je vous assure.
Bah, c'est notamment pas bon pour les rééditions. Parce que,
non,
je suis désolé
parce que
de vous
les
dire,
gens
mais...
ne s'occupent plus de vous. Et c'est très mauvais, ça.
Moi, ce que je regrette, c'est que la plupart de vos disques ne soient pas disponibles en CD.
Ah oui, mais moi aussi, c'est ce que j'ai dit à mon époux, mais j'ai dit, mais c'est normal. J'ai pas eu vraiment une maison de disques qui m'ait tenue jusqu'à maintenant. Oui.
Alors, Zizi Jeanmaire, maintenant parlons de Serge Gainsbourg.
Oui.
Belle et grande relation. Et surtout,
ah bah oui.
Et surtout, beaucoup de chansons.
Oui, il m'a fait beaucoup de chansons. C'était une relation chaleureuse, agréable. Il m'impressionnait un petit peu parce que ça, c'était un peu comme Marcel Aimé qui m'impressionnait beaucoup aussi, que Queneau m'impressionnait.
Comment vous l'avez rencontré, Serge Gainsbourg ?
Comment je l'ai rencontré ? Je l'ai rencontré parce que Roland a été le voir quand il habitait encore chez ses parents. C'est Boris Vian qui lui avait dit d'aller le voir. Donc, ça, vous voyez où ça remonte.
Pour les années 50, ouais.
Oui. Ouais. Et Boris lui avait dit, tu devrais aller voir... Enfin, c'était pas Gainsbourg à l'époque.
Si Lucien Ginsburg.
Lucien Ginsburg. Des textes formidables et des chansons et formidables.
Parce qu'il est formidable,
c'est un type qui fait... Et Roland a été le voir et il a dit, ah non, 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 je fais pas de chansons. Enfin, bref. N'a pas réussi notre coup cette fois-là. Et puis quand j'ai fait la deuxième revue...
Au Casino de Paris.
Au Casino de Paris, là, il a été lui demander s'il voulait faire la revue en entier. Sauf qu'on avait mis des numéros avec Cole Porter. Et que ça, il n'était pas... Il adorait Cole Porter, parce que ça, vraiment. Mais enfin, il avait dit... Et pourquoi pas des numéros sur mes chansons, etc. Alors qu'il y avait des numéros sur ses chansons, quand même. Mais bon... C'était le meilleur et le pire, Serge. C'était quelqu'un de très attachant. Forcément, il était très intelligent, brillant. Mais
quand vous dites qu'il avait deux faces, alors peut-être nous parler un peu des deux faces.
Je pense que oui, il pouvait être terrible et sans doute, j'en suis même à peu près sûre, difficile à vivre et très égoïste, je pense. Et d'un autre côté, il était pas beau, mais il avait tellement de charme, et qu'on fondait sous son charme, pour les femmes en tous les cas. Mais je pense qu'il était capable du meilleur et du pire. Ben, c'est sa vie le montre. Hein. Je ne sais pas je ne sais pas s'il a aimé quelqu'un. Je me trompe peut-être en disant ça.
Parce que c'est l'époque en plus où ils avaient fait ce spectacle à Bobino, où là encore il vous a écrit des chansons.
Oui.
Donc il y a eu plusieurs étapes comme ça. Hein. C'était
histoire. Oui, mais il y a eu des chansons qui étaient bonnes, qui étaient merveilleuses, et puis d'autres moins finies, moins terminées. Mais c'est parce que Serge avait une tendance à pas terminer ses chansons. Il avait une tendance à faire les chansons, le début des chansons, ça explosait, puis petit à petit, il avait des idées fantastiques, et puis il les terminait à moitié, quoi. Un jour, je lui ai dit, il m'a dit, mais fallait me le dire. Avec son nez, quand il prenait l'air ingénu, comme ça, vous pensez. Mais de toute façon, on sait bien comment il était. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à définir son caractère. Et puis, je ne devrais pas me permettre d'en parler, d'ailleurs.
Quelles sont vos chansons préférées de lui ? Puisque vous en avez chanté près d'une quarantaine au total, au fil des ans.
Moi, ce que je préfère, c'est Les Bleus.
Oui. Mais après, bon, Les Bleus, on en a parlé. Et est-ce qu'il y en a d'autres encore que vous retenez particulièrement ?
Ah ben, il y avait du Chambre du Brut. Il adorait parce qu'il me disait, c'est du Chambre du Brut, des vampes, des putes, des stars, des tsars de l'amour. Alors, il me disait, c'est bien ça. Hein. Et puis, j'ai chanté Ces Petits Riens que j'adorais. Mais c'est pas moi qui l'ai créé, mais j'adore Les Petits Riens. Et puis quand j'avais été le voir, quand il passait, je ne sais plus où.
Au Zénith, non ?
C'était au Zénith. Et puis après, on a été dîner tous les deux, et Roland était en tournée, et nous sommes allés dîner. Et puis tout à coup, il m'a regardé, il m'a dit, vous devez regretter de ne pas avoir créé Les Deux Sous Chic. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais pas du tout, c'est Jeanne qui l'a fait, c'est très bien. Ben. Et puis il m'a regardé et avec un air narquois, il m'a dit, mais il faut le chanter quand même. Parce qu'il savait que j'aimais bien créer les chansons, j'aimais bien. C'est très français ça d'ailleurs, hein, de créer des chansons.
Vous voulez dire qu'il y a une idée d'appropriation un peu ?
J'en doute. Enfin, on est fiers d'avoir créé ce qui n'existe pas en Amérique, du tout.
Oui, c'est vrai que là, les répertoires se partagent plus.
Oui, oh, oui, oui.
C'est vrai. Alors, Gainsbourg, vous lui avez rendu un bel hommage à travers un spectacle entièrement consacré à lui, qui était là pour le coup un tour de chant, qui était donc en 94 à Marseille et 95 à Paris, au Zénith.
Oui.
Donc, c'était Zizi au Zénith, tout simplement.
Zizi au Zénith, oui.
Bon, Roland a souhaité moderniser.
Il a pris de ses chansons, puis il a fait des numéros dessus, et puis bon. C'était un hommage à Serge. Au début, il avait fait une première partie avec des danseurs de Marseille qui dansaient sur ses chansons et qui dansaient sur... Voilà.
Mais non, mais par exemple, dans ce spectacle, les arrangements étaient très modernes.
Oui, moi, je ne suis pas... J'aime bien les grands orchestres avec, comme était Michel Legrand. J'aime bien ça, moi. J'aime pas trop le... Enfin, c'était bien.
Oui, mais il y avait la volonté, je pense, de Roland de toucher un public plus jeune.
Automatiquement, de toute façon. On marche avec son temps, quand même. C'est plutôt Gainsbourg qui attirait un public plus jeune, non ? Les chansons de Gainsbourg, c'est évident.
Zizi Jeanmaire, j'aimerais aborder la question du tour de chant, puisque vous avez terminé, finalement, votre carrière avec des tours de chant.
Oui.
Et c'est un très beau souvenir, parce qu'ils ont été filmés en plus, un très beau souvenir qu'on va garder de vous, c'est cette idée de l'artiste.
J'espère, parce que je trouve que, enfin, je pense que plus j'allais et plus je chantais avec émotion, plus je me suis... c'est comme une vie que l'on déroule. Et forcément, au début, la voix est gouailleuse et ceci et cela. On a la jeunesse. Et petit à petit, le temps passe. Et au fur et à mesure qu'on avance, on évolue. Et évidemment, on va vers des interprétations différentes, peut-être plus émouvantes. Donc, sans le chercher, ça vient automatiquement, ce genre d'envie.
Alors, ça a commencé au Bouffes du Nord, ce qui était déjà un petit défi quand même, parce que là, vous êtes tout près du public.
Oh, j'ai adoré faire les Bouffes du Nord, parce qu'on est avec le public et on a l'impression d'être au milieu d'eux. Et puis, ils sont forcément très attentifs. Plus c'est restreint, plus c'est... Les Bouffes du Nord, c'est un théâtre merveilleux. C'est un écrin. Alors, vous êtes là-dedans, et puis vous avez des gens là-haut, un peu partout, et puis qui sont assis par terre devant vous. Et puis, vous pouvez leur parler. Ils vous parlent, d'ailleurs. Ils vous demandent. C'est une merveille d'être au Bouffes du Nord. Je me suis dit, je vais aller dans ce théâtre, parce que comme ça, je ne vais pas mettre de numéro. Je vais le faire sans numéro, sans rien.
Sans danse. Donc.
Sans danse, sans rien.
Mais en même temps, vous vous êtes mise en danger un peu quand même de cette manière-là. Parce que...
Non, je pense pas, je ne pensais pas. Là, j'ai pensé que je pouvais faire ça. Que je pouvais me lancer avec que des chansons et que dans un écrin pareil, j'avais les chansons pour y aller d'abord et que j'avais un public qui viendrait. Et ça fait que je faisais tout le spectacle sans danseur, sans rien. Et puis seulement à la fin, j'avais le truc en plume.
Donc là, on était en 88 au Bouffes du Nord. Et en 2000, vous avez conclu avec un tour de chant à l'auditorium de l'Opéra Bastille.
Oui.
Encore plus beau.
C'est pas... Non. Les Bouffes, c'est un bijou pour chanter. L'Opéra Bastille, c'était formidable parce que, bon, le public était avec moi et que je sentais que ça marchait et que les gens m'aimaient, voilà. mais c'était un peu différent parce que c'est très large et vous perdez un peu d'intimité avec les côtés, voyez-vous. Ce qui est moins bien. Mais ça a bien marché. C'était vraiment... Les gens étaient chaleureux et m'aimaient, quoi.
Et quelle différence faites-vous, alors, entre un tour de chant et une pièce de théâtre ou un numéro de danse? Toutes choses que vous avez abordées?
Vraiment, je ne vois pas de différence. Si, le tour de chant, je vous l'ai dit, on se retrouve seul et tout ça. Mais finalement, la démarche est la même. Et avant tout, il faut séduire, il faut que les gens vous aiment, il faut y croire, il faut être vrai, il faut pas tricher. Il ne faut pas chercher à chanter une chanson qui ne vous sied pas ou que vous n'aimez pas et faire croire tout à coup que vous allez faire pleurer alors que vous n'en avez pas envie vous-même. Mais il faut donner envie de pleurer aux gens, mais soi-même, on est soi-même, on est en train de jouer. Je vois pas sur le plan artistique de séduire le public. Je dois dire, moi, pour moi, c'est la même chose. Quand j'ai fait La Dame de chez Maxime, c'était pareil. Quand j'ai fait... je me suis retrouvée dans des salles de 5 ou 6 000 places quand j'étais en Allemagne avec le tour de chant. Mon Dieu, mais c'était merveilleux aussi. Je veux dire... Non, c'est partout la même démarche. Pour moi. Si ça marche, qu'est-ce qui se passe? On a envie de recommencer. Alors, si bien que pendant quelques années, je suis passée de la danse au tour de chant, du tour de chant à la danse, parce que je ne pouvais pas me passer ni de l'un ni de l'autre. C'est fou. Et maintenant, je ne monte plus en scène, mais je regrette de ne pas avoir fait davantage de pièces, parce que dans La Dame de chez Maxime, j'ai eu vraiment du succès et je prenais un plaisir fou à faire. J'aurais pu en faire encore bien plus, peut-être. Sûrement, d'ailleurs. On perd toujours du temps.
À voix nue, Martin Penet s'entretenait avec Zizi Jeanmaire. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Équipe de réalisation, Yvan Turc, Stéphane Touvenin, Viviane Noël. Cette émission peut être réécoutée et podcastée sur le site de France Culture.